Session sur la personne humaine par le Père Marie-Dominique Philippe, le 3 juillet 2002 à Saint-Judas. Première conférence.
Comme élément nécessaire à ce que représente la personne humaine, c'est l'intelligence. C'est la colonne vertébrale, l'intelligence. Si l'intelligence est faussée, tout est faussé. C'est même assez extraordinaire de voir ça. Et Dieu nous laisse, Dieu, ne disons pas Dieu, point de vue philosophique, disons, nous avons le pouvoir d'orienter notre intelligence. Notre intelligence se développe. Et nous avons une certaine domination. C'est même très extraordinaire. C'est peut-être le plus grand don que Dieu nous a donné. Nous avons la possibilité d'orienter notre intelligence vers la vérité. Une recherche de vérité. Alors là, évidemment, on peut avoir cette recherche de la vérité et être faussé. Il y a des gens qui sont sincères et qui sont tout le temps dans l'erreur. Ça se rencontre, on en a rencontré, on en rencontre toujours. Qui sont sincères, mais d'une sincérité remarquable, et qui dit « cherche la vérité ». Il y a un moment donné dans leur vie, ça j'en suis sûr, où ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité. C'est au fond ça le très gros problème pour la personne humaine. Un homme, une femme, qui a orienté la recherche de la vérité uniquement sur son acquis, sur soi-même, donc dans la sincérité. Le gros problème, vous voyez ici, c'est distinguer ce qu'est la sincérité et ce qu'est la recherche de la vérité. Évidemment, les gens sincères disent qu'ils recherchent la vérité. Et ce n'est pas commode d'arriver à leur faire comprendre qu'ils recherchent leur vérité. On ne possède jamais la vérité. Et le premier problème de confusion entre la sincérité et la vérité, c'est qu'on possède la vérité, on veut la posséder. Et l'intelligence elle-même a un très grand désir de posséder la vérité, comme son bien, parce que la vérité est le bien de l'intelligence. Mon intelligence qui cherche la vérité et qui possède une certaine vérité, est une intelligence qui tend vers une perfection, un agrandissement, être elle-même. La vérité, c'est quelque chose qui se découvre tout le temps. On ne possède jamais la vérité. on la cherche. Et donc quelqu'un qui dit « je possède la vérité », on a envie de lui dire « oui, vous possédez votre vérité ». Elle est peut-être très belle, elle est peut-être très très grande, mais vous possédez votre vérité. Et cette attitude où on dit « je suis, donc je pense », vous voyez, la vérité est dans le fait qu'on pense. C'est ça le tragique. Parce que la recherche de la vérité va prendre des significations très différentes. Alors tout homme qui a une certaine rectitude, une certaine conscience, dira « je recherche la vérité ». La vérité, la recherche de la vérité, c'est toujours dans ce qu'on affirme, on est commandé par ce qui est, ce qui existe. C'est ce qui existe qui mesure mon intelligence, qui mesure ma connaissance. Je suis dans la vérité, dans la mesure où j'adhère à la réalité. Dès que vous n'adhérez plus à la vérité, vous êtes tout de suite pris par l'imaginaire, par le possible. Et le possible permet d'avoir un système cohérent. Et ce système cohérent que nous trouvons dans Hegel, par exemple, un système d'une cohérence remarquable qui mène à une sincérité absolue. Hegel est le type de la sincérité absolue. C'est pour ça qu'il est si séduisant. Parce que c'est... tout se tient. On met le petit doigt dedans, on est pris. Mais si on regarde bien, c'est la connaissance que Hegel a de lui-même qui est le principe premier. Donc, il y a le repliement de l'intelligence. Alors, c'est ça qu'il faut bien saisir. C'est que l'intelligence, parce qu'elle est spirituelle, a conscience d'elle-même. J'ai conscience de connaître. J'ai conscience d'être intelligent. J'ai conscience de chercher la vérité. La conscience est la propriété propre de l'intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence. C'est la propriété. L'intelligence connaît. Elle adhère à la chose. Mais il y a cette qualité très extraordinaire de l'intelligence, c'est qu'elle a conscience d'elle-même. J'ai conscience de connaître. Et quand je découvre quelque chose, j'ai conscience que je l'ai découvert. Et il y a une certaine joie. Les joies intellectuelles, c'est justement ça, d'avancer dans la recherche, d'avoir découvert quelque chose de plus. Et cela se fait tout le temps. Je peux vous affirmer que j'enseigne la philosophie depuis 1937, et on découvre toujours quelque chose de nouveau. Et découvrir quelque chose de nouveau, ça vous donne une très grande joie intellectuelle. La joie de l'intelligence qui découvre, la vitalité de l'intelligence qui découvre, c'est les plus grandes joies du reste. La joie de l'intelligence qui découvre. On ne répète jamais au point de vue de l'intelligence. répéter, c'est accepter de ne plus mettre en acte notre intelligence. C'est notre mémoire. Et très vite, on se fatigue. La recherche intellectuelle est fatigante, puisque c'est tout le temps vouloir creuser davantage, aller plus loin. Alors, il faut bien reconnaître que l'intelligence a comme propriété d'être consciente. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience ? C'est la propriété de l'intelligence. La conscience, c'est ce repliement de l'intelligence sur elle-même. Puisque notre intelligence est spirituelle, qu'elle n'a pas de support matériel, il n'y a pas d'organe intellectuel. Il y a des organes pour l'imagination, mais il n'y a pas d'organe pour l'intelligence. L'intelligence est spirituelle. C'est le côté spirituel de mon âme. Ah, mon âme est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Elle est capable d'informer. Elle est capable de déterminer quelque chose de matériel. Mais en elle-même, elle est spirituelle. Et le côté spirituel de mon âme, c'est mon intelligence. Qui n'est pas mon intelligence. Parce que mon âme, mon intelligence n'est pas substantielle. Ah. Oui. C'est très intéressant de voir ce qu'est le nous, l'intelligence, pas la raison. La raison raisonnante, je sais très bien ce que c'est. Et elle se développe énormément dans la dialectique. Alors elle est toujours dans la relation. Et il y a des gens qui ne pensent que comme ça, qui ne pensent que dialectiquement. On leur a appris à se développer dialectiquement. Donc on avance dans la mesure où on est en face de quelqu'un qui vous objecte quelque chose. L'intelligence n'est pas faite par elle-même pour avancer dialectiquement. Elle avance dialectiquement quand, à la place de regarder la réalité, elle regarde les opinions des hommes. Aujourd'hui, où l'intelligence humaine s'est très développée, c'est évident, comparativement aux Grecs, c'est très développé. C'est très développé du côté mathématique. Les mathématiques sont souveraines aujourd'hui. Et les mathématiques, ce n'est pas l'intelligence. C'est une forme d'intelligence. L'intelligence, j'allais dire, c'est la forme humaine de l'intelligence. C'est très curieux. C'est la forme d'une intelligence où l'âme informe le corps et où l'expérience première est à l'égard des réalités sensibles. Vous n'avez pas l'expérience directe du spirituel, sauf dans la conscience de votre intelligence. Et c'est pour ça que c'est si séduisant, parce que c'est dans la conscience que je connais intellectuellement que j'ai l'expérience du spirituel. Et c'est pour ça que si facilement je m'arrête à cela, parce que c'est très séduisant. Alors, mon expérience d'habitude première, c'est l'expérience. Mon intelligence avance par l'expérience. Vous avez l'expérience de quoi ? De toutes les réalités physique, matériel, sensible. Toutes vos expériences reposent sur le sensible, sauf cette expérience intérieure de votre conscience, la conscience de connaître. Et la conscience de connaître mathématiquement est particulièrement séduisante, puisque la vérité mathématique n'est pas l'adéquation ou la conformité avec le réel. En mathématiques, l'homme est son maître. Et c'est, je crois, ça qui fait cette séduction si grande des mathématiques. Parce que l'homme est son maître. Il est son maître de découvrir les relations. L'être mathématique est un être relatif, est un être de la pensée humaine, de l'intelligence liée à l'imaginaire. Et les mathématiques restent toujours liées à l'imaginaire. Il y a un support du divisible, de l'imagination, de la quantité. Et c'est pour ça que c'est terriblement humain. L'intelligence liée à l'imaginaire, et l'imaginaire est un mouvement sensible. Vous imaginez toujours des choses sensibles, des choses quantitatives. Vous n'imaginez pas quelque chose de purement spirituel. Votre imagination demeure dans le sensible, dans le quantitatif. Et l'intelligence est maître dans ce domaine imaginaire. Et elle fait ce jeu de relations. Vous voyez, au point de vue philosophique, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que quand vous regardez cette fameuse table des catégories, c'est-à-dire la substance, la qualité, la quantité, que Aristote, je crois, qu'il est le premier à l'avoir énumérée, on a ce phénomène que la relation parmi les différentes catégories est la seule qui peut être une relation de raison ou une relation réelle. Et ça, je crois que c'est capital de comprendre ça. L'intelligence est capable de forger des relations de raison. Il y a des relations réelles, l'amitié. Je vous donne un exemple, puisque c'est net. L'amitié, c'est une relation réelle. Je suis lié à telle personne. Je l'aime. Elle m'aime. Donc, on est lié. Ça, c'est une relation réelle. L'ami. Relation de raison. L'universel. Vous n'avez jamais vu l'universel. Et vous parlez de l'universel. L'universel homme, universel. Âme, universel. Animal, universel. Vous avez le genre, la différence spécifique, l'espèce, la propriété, l'accident. Cinq modalité de l'universel. Et la plupart des gens demeurent toujours dans cette relation de raison. et ne rejoignent plus le réel. C'est extraordinaire d'avoir la possibilité de faire 5 modalités de relations de raison. Au niveau générique, au niveau différent spécifique, au niveau espèce, au niveau accident, au niveau propriété. Ça, c'est très important. Quand vous lisez un article de journal, essayez de comprendre à quel niveau ça se situe. Ça se situe presque toujours sur les opinions des hommes. Donc, relation de raison. Et le réel n'est pas là. Et alors, la relation de raison engendre une relation de raison. C'est très important de comprendre la naissance de l'idéalisme qui naît dans l'intelligence. L'idéalisme, c'est une forme d'intelligence. C'est l'intelligence liée à l'imaginaire. Et donc, les mathématiques sont très souvent le point de départ d'une philosophie idéaliste. Ce serait très intéressant de voir l'histoire des mathématiques, parce que les mathématiques jouent un rôle très important. Je vous dis tout de suite, les mathématiques ne sont pas un élément d'une personne. Ah, c'est terrible ça. Quand on dit ça, tous les mathématiciens sont contre vous. Le mathématicien n'est pas une personne. C'est une forme d'intelligence. Une forme d'intelligence très intéressante, très féconde, merveilleuse, mais c'est une forme d'intelligence. Le mathématicien n'atteint pas la personne humaine. Ils sont dans les possibles, les constructions de possibles. Aujourd'hui, c'est le virtuel. On vit dans le virtuel. On ne vit plus dans la réalité. C'est le virtuel que nous pouvons fabriquer comme nous voulons. Alors, c'est ça qui est très important, c'est de comprendre que la relation est ou réelle ou de raison. Prenez deux exemples. L'universel, c'est une relation de raison. L'animal ne pense pas l'universel. La parole est fondée sur l'universel. Vous ne pourriez pas parler s'il n'y avait pas la raison, la relation de raison. C'est très curieux. Puisque quand vous parlez, vous inventez un mot qui est un mot de l'intelligence. C'est l'intelligence qui a fabriqué la parole. Alors, relation de raison. Cette relation de raison a un fondement réel, mais comme relation, c'est l'intelligence qui l'a composée. Le genre est une relation de raison. L'universel. Alors, si vous commencez votre philosophie par la conscience que vous avez de votre pensée, vous la commencez par l'universel. Et vous ne pouvez plus rattraper le réel. C'est ça qui est très curieux. Si vous commencez votre philosophie par l'expérience, l'expérience vous fait toucher le réel. Ceci est. Ceci existe. Ceci est une réalité. Un petit animal. Une puce. Ça existe. Si vous arrêtez de vous chercher, hein, et vous cherchez la puce. et vous cherchez l'araignée, et vous cherchez le gibier. Un chasseur, il sait la différence entre la relation réelle et la relation de raison. Et ceci est complètement perdu dans l'idéalisme. L'idéalisme ne fait plus de distinction entre la relation réelle et la relation de raison. Et c'est ça qui fait comprendre ce que c'est que la dialectique. Où l'opinion engendre l'opinion, et vous avez toujours cette relation de raison. La philosophie réaliste développe non l'imaginaire, non une intelligence toujours liée à l'imagination, mais l'intelligence pour elle-même, qui est faite pour connaître le réel. Et la première distinction que vous faites, c'est entre le réel et la relation de raison. La relation de raison, vous la saisissez dans l'intuition. Ce n'est pas la même chose, l'intuition et l'expérience. Au fond, vous avez deux espèces de philosophie. Une philosophie qui repose sur l'expérience et une philosophie qui repose sur l'intuition. C'est très intéressant à voir, ça, parce que c'est capital. Alors, quand on regarde la personne humaine, une personne humaine a une intelligence réaliste. Pourquoi ? Ah, c'est intéressant. Une intelligence liée uniquement à la relation de raison, à l'universel, ne forme pas une personne. Ça forme une personne avec des idées extraordinaires, elle vit dans le possible. Alors tout y passe, hein, parce que tout peut être transformé par le possible. Vous pouvez même transformer l'amitié par le possible. Les mathématiciens passent facilement d'une amitié réelle, le mariage, l'amitié réelle, à ce que mon intelligence construit. Que devient le mariage dans la vision mathématique. Le mariage me rétrécit, puisque c'est me lier à une personne. Alors que non, tout est possible. L'amitié n'est pas impossible. L'amitié, c'est l'ami. Ce n'est pas une relation. C'est très curieux. Je dis ça, c'est parce que de plus en plus, on va être en face d'un monde mathématique, du virtuel. Ça commence, hein. Au point de vue éducation nationale, la première chose qu'on fait, c'est développer les mathématiques. C'est de former une intelligence mathématique. Avant d'entrer chez les dominicains, je n'aimais que les mathématiques. Et je les aimais beaucoup. Je trouvais ça palpitant. Et quand j'ai découvert Aristote, le jugement d'Aristote sur les mathématiques, c'est merveilleux. La relation de raison et la relation réelle. Alors, vous voyez, c'est très subtil, hein, je comprends très bien ça. J'insiste parce que je crois que c'est capital. C'est capital, on défigure tout autrement. Et alors on vit dans le virtuel. Le grand danger du monde d'aujourd'hui, c'est de vivre dans le virtuel. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais je crains très fort. C'est un père de famille qui m'a dit ça. Parce qu'il a vu que l'intelligence de son fils était, son petit gosse, était uniquement orienté vers les mathématiques. Or, si vous vous laissez prendre, les mathématiques vont construire un monde énorme et vous n'arriverez plus à rejoindre le réel, l'expérience. Et c'est vrai, l'expérience, vous voyez, de la campagne, on vit dans la campagne, on est obligé de regarder l'expérience. On sait ce que c'est. Une vache, on sait ce que c'est. Un bélier, on sait ce que c'est. L'animal, c'est pas une relation de raison. Ça résiste. C'est très important de voir que l'idéalisme naît à partir de la relation de raison. Et c'est au cœur de toute philosophie idéaliste. Alors que c'est au cœur de toute philosophie, de toute philosophie idéaliste. Hein. Ce qui est au cœur de toute philosophie réaliste, c'est l'expérience. Vous n'avez pas l'expérience de l'universel. Vous pensez l'universel. Est-ce que vous avez touché l'universel? Est-ce que vous dites que l'universel existe? Non. Tout le système de votre pensée repose sur l'universel. Et vous êtes dans la rectitude si vous restez dans une relation réelle. Et vous partez vers l'idéal lorsque vous avez une relation de raison. Il faut distinguer les deux. Et celui qui part dans la relation de raison croit que c'est le réel. Il ne peut plus le distinguer maintenant. Il est enfermé dans la pensée, dans sa pensée, dans son système. Son système l'enferme, il reste dedans. Il reste fixé là-dedans. Donc, faisons grande attention quand je dis que le second élément de la personne, c'est l'intelligence. Mais une intelligence réaliste. Une intelligence qui sait distinguer le réel de l'universel. Et c'est pas si commode que ça. Parce que l'universel, il est notre compagnon habituel. Hein. Dès que je pense, je suis dans l'universel. Ah, vous revenez au réel. Les éléments du monde physique. Donc je pars d'une intelligence qui cherche la vérité, c'est-à-dire une intelligence qui respecte la réalité et qui cherche à voir ce qu'est cette réalité. La réalité la plus parfaite que vous expérimentez, c'est la personne humaine. C'est la personne humaine, la réalité la plus parfaite que vous expérimentez. Parce que toutes les autres réalités que vous expérimentez. Dieu, vous ne l'expérimentez pas. Dieu est l'inconnu au point de vue de l'expérience. Au point de vue de l'expérience. Au point de vue philosophique. Il est l'au-delà. Il est transcendant. Il transcende. Il est au-dessus. Tout ce que vous expérimentez, c'est ce que vous êtes capable de toucher. Ah, vous voyez ? L'expérience et l'intelligence liées au toucher. Et vous avez une expérience type, le toucher. À un moment donné, on cherchait à savoir si les soucoupes volantes étaient des réalités ou pas des réalités. Et je me suis amusé de suivre tout ce qu'on disait sur les cultures bonantes. Et alors, il y avait une chose qu'on n'a jamais touchée, c'était le toucher. On entendait, on se faisait du bruit. Mais le toucher, quand on est dans le désert, on a des hallucinations. Or, l'hallucination du toucher, c'est rare. Le toucher, c'est le sens réel. L'œil, oh, voyez, votre expérience, il y en a cinq, hein. L'expérience du toucher, on sait ce que c'est. C'est chaud, c'est froid, c'est rugueux, c'est poli, c'est touché. L'expérience de l'œil, la vision. Ah, vous décollez déjà beaucoup plus vite. On a beaucoup plus facilement des hallucinations visuelles dans le désert. Alors, il y a le désert de la pensée. Il y a le désert du réalisme. On vit le désert du réalisme de la pensée aujourd'hui. On est tout le temps en face du possible, du virtuel. La télé... La vision est un sens qui très facilement décolle. C'est l'imagination liée à la vision nous fait voir des choses extraordinaires, les hallucinations. L'intelligence liée à l'odorat. L'intelligence liée au goût. Vous avez votre intelligence par l'imagination, hein, toujours par l'imagination. La forme de l'imagination de chacun d'entre nous est différente selon l'éducation qu'on a eue. On a des imaginations plus visuelles, des imaginations plus tactiles, des imaginations, et ainsi de suite. Vous voyez, l'expérience est très complexe. Je m'étais amusé à Fribourg de faire une année de voir ce que c'est que l'expérience. Et on voit que l'expérience, elle a cinq modalités. Et aujourd'hui, dans le développement de la science, c'est l'expérience de la vision. C'est très curieux, ça aussi. Parce qu'on décolle beaucoup plus facilement par l'expérience de la vision que par l'expérience du toucher. L'expérience tactile n'est pas développée. C'est très développé pour les aveugles. Ah, les aveugles ont un sens du toucher qui est très extraordinaire. Parce que le sens du toucher va remplacer la vision qui n'est pas donnée. Et c'est pour ça, parce que nous, avec la vision, on a l'avantage de sentir d'avance. On n'a pas besoin de toucher. Mais une chose désastreuse, c'est dans les musées où il y a des statues. Et si vous mettez à toucher la statue, il y a immédiatement un appel. Alors quand vous voyez une statue, vous avez toujours envie de la toucher. C'est normal. C'est de la pierre, c'est du marbre. On vous empêche de la toucher. On vit un monde qui a peur du toucher. C'est très extraordinaire, ça. Et un monde qui développe les yeux, la vision. Parce que la vision peut, beaucoup plus par l'imagination, être des hallucinations. La philosophie de l'intelligence doit développer l'expérience. Et voir que nous sommes des êtres qui touchons l'univers par nos cinq sens. et que notre intelligence se développe différemment selon les cinq sens. Une intelligence plus visuelle. Une intelligence plus du toucher. C'est surtout les deux extrêmes. Hein. Les autres, c'est moins. Mais je me souviens, une fois que j'avais fait de l'autostop, c'était pendant la guerre, et j'ai tombé sur quelqu'un qui était un inventeur de parfums. Ça m'a beaucoup intéressé, du reste. Vous voyez, l'intelligence et l'odorat. Il m'a raconté la manière dont il trouvait les parfums. C'est intéressant de voir ça. Alors, il allait auprès de la nature, surtout dans le midi, parce que c'est sûr que la chaleur augmente l'odeur. Dans le nord, l'odorat est moins développé. Et les fleurs, la montagne, tout ça, il essayait de capter ça en artiste pour le réaliser. Bon, c'est une intelligence liée à l'odorat. Ça ne va pas très loin. Mais quand même, c'est une forme d'intelligence. Et ça m'intéressait beaucoup d'avoir devant moi cette forme d'intelligence. Je ne fréquente pas beaucoup ces gens-là, n'est-ce pas ? C'est sûr, mais ça m'intéressait beaucoup. Et depuis, je cherche toujours le lien d'intelligence avec les sens. Parce que ça, c'est l'expérience. Et je vois tout de suite le développement particulier de telle philosophie avec telle expérience à la base. L'expérience est le point de départ de notre intelligence réaliste. Ceci est. Vous touchez. L'intelligence développe ensuite la recherche des principes. L'intelligence et les principes sont réels, ils ne sont pas dans l'imagination. Les principes de la réalité. Découvrir l'âme. L'âme est un principe, principe de vie. On peut découvrir son âme. On peut essayer de la comprendre. Je ne la touche pas, parce que je la touche toujours à travers mon corps. Je n'ai jamais touché mon âme directement, et vous non plus. Mais vous voyez que l'expérience que vous avez présuppose une intelligence. Et l'intelligence présuppose l'âme. Par l'intelligence, vous découvrez l'âme. Quand vous découvrez un principe, l'âme, vous ne la touchez pas, vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas, vous ne la goûtez pas. Et vous dites, l'âme existe comme un principe interne, quelque chose de plus réel que ce que je touche. Oui, l'intelligence se développe en cherchant les principes. Une méthode, on appelle ça une méthode inductive. Je passe de l'expérience à la saisie des principes. Et mon intelligence saisit cela, ces principes. Et ces principes, ils sont multiples. Je prends l'âme parce que c'est le principe qui est le plus intéressant pour moi à saisir. J'ai en moi quelque chose qui dépasse l'expérience, mon âme. Et progressivement, mon intelligence se pose la question, est-ce qu'il y a un être premier ? Voyez, je ne peux découvrir l'existence de Dieu que par l'expérience. je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu par les mathématiques. Pourquoi ? Parce que je reste dans la relation de raison. Une relation de raison ne fera jamais découvrir Dieu. Vous voyez comme c'est subtil, hein ? Puisque ceux qui nient l'existence de Dieu mais plaident les mathématiques, un monde qui plaide les mathématiques, parce que c'est, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus utile, c'est ce qu'il y a de plus immédiatement utilitaire dans ma connaissance. Et je ne découvrirai jamais le premier. Husserl, pour vous donner un exemple, Husserl est un mathématicien. Il a fait son doctorat de mathématiques. Il avait fait, puisqu'il est mort, Husserl. Husserl est devenu philosophe par les mathématiques. Ah. Nécessairement idéaliste. Et au terme de sa vie, les inédits d'Husserl, qui sont à Louvain, c'est la richesse de Louvain, Dieu, du moins, ce qui est premier, c'est une valeur. Mais Dieu n'est pas une valeur. La valeur, c'est encore une relation. J'ai mes valeurs. C'est pas réel. C'est une relation de raison, les valeurs. C'est très curieux. C'est pour ça que c'est si intéressant de regarder le développement de Husserl. Parce que c'est intéressant de voir que les mathématiques conduisent non pas à Dieu, mais à la valeur. Aux valeurs. Si mon intelligence part de l'expérience, elle est toujours en contact avec la réalité. Elle passe de la réalité sensible à la réalité spirituelle, l'âme. L'âme est une réalité spirituelle. Les principes sont des réalités spirituelles. Les principes sont réels, ils sont dans la réalité. Si je les découvre par l'expérience, hein. Ils sont une relation réelle, ils sont des causes. Et en définitive, je découvre l'existence de Dieu comme la réalité suprême. Mon intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu. À partir de la petite fleur qui existe, je peux découvrir l'existence de Dieu. À partir de tout ce qui existe, je peux découvrir l'existence de Dieu. Or, je vous ai dit, parmi les réalités que vous pouvez expérimenter, il y en a une qui est plus grande que toutes les autres, c'est la personne humaine. Vous pouvez expérimenter une personne humaine. Et vous l'expérimentez d'une façon tout à fait particulière par l'amitié. L'amitié vous fait découvrir l'autre ami. Et l'ami, il existe. Ce n'est pas ce que j'imagine. Je peux imaginer un ami absolument parfait, et quand je suis en face d'un ami réel, je me dis « pauvre ». Et celui qui n'a qu'un sens idéal de l'amitié ne découvrira jamais l'ami. Ça deviendra un obstacle. Idéaliser l'ami, C'est la chose la plus terrible. Parce que l'expérience la plus forte que vous avez, la plus parfaite que vous pouvez avoir, c'est l'expérience d'un ami. L'expérience d'un ami vous conduit à Dieu. Toutes les preuves de l'existence de Dieu. Vous savez bien, quand on parle des preuves de l'existence de Dieu, on pense à saint Thomas. Et saint Thomas résume dans un article de la Somme les cinq voies, parce qu'on a cinq sens. Donc il y a cinq expériences typiques de Dieu. Et saint Thomas met ça dans un seul article. Or, pour saint Thomas, l'article, c'est l'unité. Et tous les commentateurs d'Aristote, de saint Thomas, ont séparé les cinq voies. Alors, on a fait des thèses sur la prima via, sur la seconde voie, sur la troisième voie. Saint Thomas unit les cinq voies dans un seul article. Il n'y a qu'une preuve de l'existence de Dieu. Il n'y en a pas cinq. C'est celle de la finalité. Et donc, c'est celle de l'amitié. L'amitié est l'expérience la plus riche. Et c'est l'expérience la plus valable, la plus grande pour découvrir Dieu. L'ami, un véritable ami, si je découvre le véritable ami, il est pour moi une présence de quelque chose qui le dépasse. Et qu'est-ce qui dépasse l'ami? Ça ne peut être que Dieu. L'intelligence réaliste est une intelligence qui est faite pour Dieu, pour le découvrir, pour le contempler. Et c'est cette intelligence qui, elle, est un élément essentiel. C'est l'élément magistral de la personne. Une personne ne peut être une personne humaine que si elle recherche la vérité. Alors, il peut se faire que des personnes cherchent la vérité toute leur vie et n'arrivent pas à découvrir l'existence de Dieu. On les a mal aiguillés. On les a aiguillés du côté mathématique. Ils ne peuvent pas découvrir l'existence de Dieu. Husserl ne découvre pas l'existence de Dieu, mais des valeurs. Alors vous allez dire, ah, c'est la même chose, valeur ou Dieu. Ah non, c'est pas la même chose du tout. Les valeurs, vous les avez en vous. Dieu, nous l'avons au-dessus. Il nous dépasse. Il est en nous, parce qu'il agit sur nous. Mais il nous dépasse. Je découvre Dieu, premièrement, par la transcendance de l'amitié. La grandeur de l'amitié dont j'ai l'expérience. D'où vient cette amitié? Elle provient de l'âme. Et d'où provient l'âme? Du Créateur. Et je remonte à Dieu. C'est très important de comprendre que l'intelligence, c'est ce qui constitue en premier lieu la personne. normalement, cette intelligence a découvert Dieu. Et il y a le respect de Dieu. Mais il peut très bien se faire que cette intelligence n'ait pas découvert Dieu, mais qu'elle cherche la vérité. Alors une intelligence qui cherche la vérité peut constituer une personne. Mais quelqu'un qui ne cherche pas la vérité ne sera jamais une personne. C'est terrible ça, de dire ça. Hein, c'est terrible. Et c'est pourtant vrai. Parce que l'intelligence qui ne cherche pas la vérité est une intelligence errante, prise constamment par toutes les fantaisies de l'imagination. Alors elle ira un peu partout. On a des fois des gens comme ça. J'ai reçu l'autre jour une lettre de quelqu'un qui m'a dit « J'ai cherché toute ma vie si Dieu existait. » Et je n'ai jamais découvert. Je vous l'écris parce qu'il y avait des amitiés. Un intermédiaire, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver Dieu ? C'est touchant de trouver ça. Quelqu'un de 50 ans qui m'écrivait ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour découvrir Dieu ? Je voudrais tellement le découvrir, mais il se cache. Est-ce qu'il existe ? S'il est Dieu, il devrait se manifester quand même. Devant une intelligence qui cherche Dieu. Mais une intelligence qui cherche Dieu, qui cherche la vérité, est une intelligence d'une personne humaine. Ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une petite sainte, Sainte Catherine de Sienne. Ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, c'est le désir. L'homme qui désire découvrir la vérité, c'est grand. Il attire toujours le respect. Celui qui l'a découvert, tant mieux. Mais celui qui ne l'a pas découvert, il la cherche. Il cherche la vérité à travers tout. Et ce n'est pas commun de chercher la vérité à travers notre monde. Notre monde qui est pris, saisi par le point de vue mathématique. Et les mathématiques ne peuvent pas découvrir Dieu. C'est pour cela que c'est si important de comprendre que la recherche de la vérité, c'est ça qui constitue